Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 31. Je reçois Delphine qui nous relate son cheminement personnel au travers d'une de ses passions, le design. Elle nous parle de sa prise de conscience écologique, de l'urgence d'agir maintenant et nous explique comment cela a fait évoluer son rapport au travail et sa vision du monde en tant que jeune diplômé. Nous parlons aussi de comment le design peut être à la fois un accélérateur de prise de conscience en stimulant l'imaginaire des futurs souhaitables et un outil pour construire ces derniers. Bonne écoute! Bonjour Delphine.
Bonjour.
Delphine, tu as été diplômée de Central Lille en 2017 et tu as ensuite fait un master à Audencia Business School en 2018. À la fin de tes études, tu t'es lancée dans l'industrie des cosmétiques, mais tu as vite changé ton fusil d'épaule pour te lancer dans des projets liés à la transition écologique. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et nous expliquer ta démarche ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je suis née et j'ai grandi en Haute-Savoie. J'aime bien commencer par là parce que je pense que c'est de là que vient mon attachement envers la nature. Et aujourd'hui, c'est ce qui a forgé, je pense, mes convictions, les convictions écologiques que je porte en ce moment. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai fait ensuite une école d'ingénieur, comme tu disais, à Centrale, à Lille. Et puis, j'ai complété cette formation avec le Master Marketing Design Création d'Audencia. Donc, c'est une école qui est entre Audencia, Centrale Nantes et l'École de Design de Nantes. Et c'est un master qui forme à la conception centrée sur les usages, donc l'innovation par le design. Donc, en fait, le but de ce master, c'est de former les étudiants à une démarche de conception créative qui a pour but de résoudre différents problèmes de l'existence humaine en utilisant le design. Et en faisant cette formation, j'ai eu l'impression que j'arrivais à trouver du sens dans ce que je voulais faire parce que ça venait vraiment compléter ma formation d'ingénieur avec une dimension plus à la fois créative, mais aussi qui venait apporter du sens dans les questionnements, dans les projets, dans les problèmes que je souhaitais résoudre. Et donc, à l'issue de ce master, je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et j'ai fait une première expérience, un premier stage chez L'Oréal en recherche et innovation sur la partie innovation maquillage. Et à la suite de ce stage, j'ai décidé de rajouter finalement une troisième corde aux deux premières qui sont l'ingénierie et le design. Et cette troisième corde, ça a été l'écologie.
D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu as rajouté cette corde écologique à ton arc, finalement ? C'est via d'autres études ?
Non, pas vraiment. Ça a été plutôt une prise de conscience qui s'est faite petit à petit. Alors, peut-être que pour en parler plus précisément, il faut que je parle d'un projet que je faisais en parallèle de mon stage chez L'Oréal, qui était la thèse de master que je faisais, donc thèse professionnelle, que je faisais sur la thématique de la biodiversité. J'avais choisi cette thématique parce que au début, je voulais m'interroger sur comment est-ce que les innovations pouvaient être inspirées de la nature, comment est-ce que la nature plutôt pouvait inspirer des innovations. Et j'ai commencé à lire pas mal de documents, d'études sur la biodiversité. Du coup, je me suis intéressée aussi aux questions d'érosion de la biodiversité. J'ai commencé à lire des choses sur la sixième extinction de masse. Et j'ai commencé en fait à prendre la mesure de l'ampleur du problème écologique que je percevais déjà avec les questions de changement climatique qui étaient déjà des questions qui m'intéressaient. Mais en creusant vraiment le sujet, je me suis rendu compte de l'urgence d'agir. Et du coup, je me suis retrouvée à nouveau perdue, peut-être en faisant cette thèse, parce que je me suis dit, mince, je pensais avoir trouvé ce que je voulais faire en alliant design et ingénierie. J'avais trouvé une manière d'agir, de penser qui convenait à mes centres d'intérêt et à ma manière de penser. Et en fait, là, la question écologique revenait un peu mettre tout ça en question. Et je me disais, mince, mais finalement, l'innovation, est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça a un sens d'innover pour du maquillage? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas des choses plus urgentes à faire, même si la question des cosmétiques et de la beauté, c'est aussi quelque chose qui, je pense, est très intéressant à creuser et qui m'intéressait beaucoup à ce moment-là. Mais c'est vraiment venu remettre un peu tout ça en question. Et du coup, je me suis un peu retrouvée dans une espèce de nouveau vertige existentiel où je me disais, bon, OK, il faut que j'agisse, mais où, comment, pourquoi? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça peut matcher avec mes convictions écologiques? Et donc, aujourd'hui, après plusieurs réflexions, j'ai identifié que je pouvais rajouter justement cette troisième corde qui est l'écologie aux deux premières et que finalement, c'était non seulement compatible, mais c'était aussi hyper cohérent avec, avec ce que j'avais déjà construit comme, comme compétences et comme connaissances et avec la vision que j'avais du design. Peut-être pour expliquer ça plus en détail, il faudrait que je reparte de la définition du design parce qu'aujourd'hui, quand on parle de design, la plupart du temps, les gens entendent le côté esthétique, décoratif, alors qu'en fait, le design, comme je te le disais au début en t'expliquant la thématique du master, c'est vraiment plus que ça. Pour moi, c'est plus une approche, un processus intellectuel créatif qui a pour objectif de résoudre des problèmes dans différents domaines de l'existence humaine, en créant des nouveaux usages, des nouveaux scénarios de vie. Et du coup, il y a un théoricien du design qui s'appelle Alain Findeli qui dit que le but du design, c'est d'améliorer ou de maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Et cette définition-là, qui me convenait à l'époque, elle a été un peu remise en question parce que je me dis, mais avec la crise écologique et sociale, enfin avec ce qu'on traverse en ce moment, avec toute l'ère de l'anthropocène, finalement, l'homme, il en vient à détruire son propre habitat. Et du coup, enfin, cette question de maintenir l'habitabilité du monde, elle devient un peu, enfin, pour moi, on peut la décentrer et peut-être se demander aujourd'hui, avec la crise écologique, comment on est dans une obligation au final de penser le monde différemment, de déconstruire les croyances sur lesquelles on a évolué et de construire de nouvelles manières de faire et de penser. Et du coup, moi, ma vision du design, c'est plus aujourd'hui, enfin, en tout cas, ce qui m'anime, c'est essayer de repenser et recréer notre manière d'habiter le monde en utilisant du coup le design, en mettant le design au service de l'écologie pour inventer des nouveaux scénarios de vie, des nouvelles pratiques, des nouveaux usages, des nouvelles manières, par exemple, d'utiliser les infrastructures qui, demain, seront peut-être obsolètes, inventer de nouvelles politiques publiques, des nouveaux modèles économiques, etc. etc. En fait, dans le design, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, dans l'étymologie du mot design, il y a deux mots. Il y a le dessin, D-E-2-S-I-N, comme la représentation, la forme, et le dessin, D-E-2-S-E-I-N, dans le sens projet, intention. Et du coup, si on essaye de résumer ça, le design, c'est un peu dessiner demain, essayer de dessiner ce que pourrait être demain, ce qui n'existe pas encore et qui aujourd'hui n'est pas encore envisageable, mais en le dessinant, ça devient quelque chose qu'on peut commencer à penser et à envisager. Et du coup, c'est pour ça que je pense que le design, c'est vraiment une discipline, une approche ou même un mode de pensée qui peut être très pertinent par rapport aux problématiques actuelles. Parce que, comme je disais, on a vraiment besoin de repenser tous les différents domaines de notre existence. Et pour ça, on a besoin de les imaginer, de les dessiner, de les concevoir. Et du coup, plus précisément, en disant mettre le design au service de l'écologie, j'ai identifié trois axes. Le premier, c'est grâce au design, essayer d'accompagner et de favoriser le changement de comportement. Par exemple, comment faire en sorte que les gens se mettent en action par rapport aux problématiques écologiques, comment est-ce qu'ils commencent à prendre de nouvelles habitudes qui soient compatibles avec le maintien de la vie, etc. Donc ça a été l'objet de ma thèse professionnelle, dont je pourrais te parler un peu plus tard, plus en détail. C'est aussi ce que je fais aujourd'hui dans mon travail chez Nu, dans la start-up Nu. On pourra parler aussi. Et puis le deuxième axe, du coup, qui concerne donc comment mettre le design au service de l'écologie, c'est essayer du coup de créer des expériences de vie soutenables, donc de nouveaux modes de vie. Donc ça, c'est ce que je te disais aussi, essayer d'instaurer peut-être de nouveaux rapports à la nature, de nouvelles pratiques, de nouveaux rapports aux autres aussi. Et le troisième axe, c'est grâce au design, essayer de créer et de diffuser des nouveaux imaginaires, de libérer les imaginaires, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on est un peu bloqué dans les imaginaires qui parlent de technologie. Ces imaginaires-là commencent à s'essouffler. On ne croit plus trop à la technologie pour sauver le monde. En tout cas, moi, j'y crois pas et j'y crois de moins en moins. Et dans mon entourage, je constate que c'est un imaginaire qui s'essouffle un peu. Et on a aussi un imaginaire de la consommation dont on a du mal à sortir. Et pour inventer de nouvelles manières de vivre et de nouvelles manières d'habiter le monde, on a besoin de sortir de ces imaginaires-là. Et on a besoin de trouver de nouvelles manières d'envisager nos rapports au monde et d'envisager nos vies. Et du coup, l'imaginaire, je pense que c'est quelque chose qui est super important à développer. Et je pense que le design, justement, dans sa capacité à dessiner ce qui n'existe pas encore, peut être quelque chose de tout à fait pertinent en utilisant complément avec d'autres approches comme la fiction, les récits, etc.
Je trouve ça très, très intéressant, d'autant que moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la thématique de la science-fiction.
Génial.
Et notamment la science-fiction comme, comme étant une prospective justement de futur souhaitable ou non. Avant qu'on revienne sur justement un peu ce que tu fais aujourd'hui chez Nu, la manière dont tu envisages le design au niveau professionnel, j'aimerais bien continuer sur cette thématique du design pour des futurs souhaitables. Comment est-ce que concrètement ça fonctionne? Comment est-ce que tu réinventes des récits aujourd'hui, des imaginaires possibles avec le design?
Je peux te donner par exemple l'exemple de ma thèse professionnelle qui est ce qui a déclenché mon envie de travailler pour les thématiques écologiques et ce qui est aussi le premier projet que j'ai mis en place finalement qui associe design et écologie. Donc en fait, ma thèse professionnelle, le sujet de ma thèse professionnelle finalement, ça a été comment essayer de mobiliser les individus pour agir en faveur de la biodiversité. En tout cas, plutôt modifier la disposition qu'ils ont à agir pour adopter un comportement qui soit compatible avec le maintien de la biodiversité. Parce que je m'étais rendu compte en faisant un micro-trottoir que la plupart des gens ne savaient pas forcément qu'il y avait un problème d'érosion de la biodiversité déjà et qu'ils ne savaient pas que leur comportement à eux pouvait avoir un impact au niveau global sur l'extinction des espèces. Et donc, pour essayer d'arriver à cet objectif, j'ai utilisé un outil en design qui s'appelle le design fiction, qui fait un peu lien justement avec la science-fiction, puisque l'objectif du design fiction, c'est de matérialiser des futurs possibles pour générer du débat. Donc en fait, on va utiliser des prototypes et des maquettes projectives pour essayer de rendre tangibles des scénarios futurs, des scénarios qu'on va construire à partir de signes faibles qu'on observe aujourd'hui ou en s'inspirant des imaginaires qu'on trouve dans la fiction. Et on va les maqueter pour proposer ces maquettes à un public et ensuite amener le public à débattre sur ces questions-là. En fait, ça permet de projeter les individus vers un futur et ensuite leur demander s'ils ont envie ou pas d'aller vers ce futur-là. Et concrètement, ce que j'avais fait, moi, donc j'avais imaginé plusieurs scénarios, j'en ai matérialisé un, qui est un scénario dans lequel on imagine donc que demain, il y aura une consommation industrielle des bénéfices de la biodiversité avec la consommation d'air pur en bouteille. Donc, on pourrait acheter des bouteilles d'air, un air qui aurait été purifié. Quand je racontais la fiction aux participants, je leur expliquais que c'était un air qui avait été purifié par des plantes sous des serres dans le nord de la Russie, etc., qui avait été ensuite mis en bouteille et qui était commercialisé en France aujourd'hui. Je leur avais présenté le concept comme si c'était un concept nouveau et que je cherchais à le valider auprès d'utilisateurs. Donc j'avais rassemblé du coup un groupe de personnes sans leur dire que c'était une fiction. Je leur avais présenté ce concept en leur présentant des visuels, des maquettes, pour essayer de les projeter. Et en fait, du coup, il y a eu toute une phase de débat où les participants se sont posés pas mal de questions sur déjà qu'est-ce que ça veut dire consommer un air pur, est-ce qu'aujourd'hui l'air qu'on consomme est pur, enfin l'air qu'on respire est pur, pardon. Est-ce que consommer, enfin, est-ce que c'est normal d'avoir à payer pour un bien commun comme l'air? Et donc là, ils ont fait un parallèle avec aujourd'hui, on paye finalement pour le bien commun qui est l'eau. Donc est-ce que ça aussi c'est normal aujourd'hui? Donc en fait, tout ce scénario, il a permis de venir poser des questions sur le futur, mais aussi de remettre en cause certains éléments du présent. Et donc au bout d'une heure de débat, qui est du coup un débat assez large, avec des thématiques sur la santé, sur la biodiversité, sur la consommation, etc. Au bout d'une heure de débat, les individus... Enfin, j'ai annoncé au public que c'était un scénario qui était fictionnel, en leur expliquant le but de la démarche. Et je leur ai proposé de réfléchir à est-ce qu'ils étaient prêts ou pas à aller vers... Est-ce qu'ils avaient envie ou pas d'aller vers ce futur? Et si... a priori, ils souhaitaient ne pas y aller, puisque c'était quand même un futur plutôt dystopique, qu'est-ce qu'ils étaient prêts à mettre en place dans leur quotidien dès aujourd'hui pour ne pas aller vers ce futur-là? Donc là, on a évoqué plusieurs petites actions qui, en fonction des personnes, étaient plus ou moins engageantes. Mais ce que j'ai réussi à montrer à partir de ce scénario et de cet exercice, c'est que les individus qui avaient participé au débat avaient, à l'issue du débat, beaucoup plus, une disposition beaucoup plus forte à adopter des gestes qui iraient dans le sens du maintien d'un air pur et, et d'une biodiversité riche. Donc, par exemple, quelques semaines plus tard, j'avais recontacté les participants pour voir si l'impact de cet atelier avait un peu été resté dans leur esprit. Et plusieurs d'entre eux m'avaient annoncé qu'ils avaient commencé à mettre en place dans leur quotidien des petits gestes du type réutiliser des sacs en plastique qui jetaient habituellement ou arrêter d'acheter des bouteilles d'eau, etc.
D'accord. Donc, c'est de la prise de conscience via, en fait, un travail de prospective que tu maquilles sous un focus group, en fait.
C'est exactement ça. En fait, le fait de rendre tangibles des scénarios du futur, ça permet un peu de décaler le cadre de pensée, de libérer les imaginaires et puis de faire se poser des questions sur des choses qu'on pensait évidentes ou sur lesquelles on avait une opinion fixe qu'on n'avait pas eu l'occasion de reconsidérer. Et du coup, ça permet un peu de se projeter et de décaler un peu le cadre de pensée qu'on a d'habitude.
Ouais, je trouve ça vraiment génial, et j'aimerais bien participer à un exercice comme ça, tu vois, ce serait vraiment très intéressant. Et juste pour la petite histoire, ce qui est marrant, mais quand même très triste à la fois, par rapport au projet dont tu parlais de bouteilles avec de l'air purifié, c'est moi, j'ai vécu au Vietnam pendant 2 ans et demi avant, et en fait, ça existe réellement. Les produits, en Asie du Sud-Est, c'est assez courant de se rendre dans des cafés ou dans des bars à oxygène pour justement respirer de l'air pur, tellement l'air est pollué dehors.
Ouais, mais je m'en étais rendu compte, parce que cette thèse-là, elle date d'il y a 2 ans, et je m'en étais rendu compte après qu'au final, c'était pas un scénario fictif, c'était déjà la réalité. Alors, pas encore en France, heureusement, mais effectivement, ça existe déjà.
Et aujourd'hui, alors, toi, c'est vers ça que tu as envie de t'aiguiller au niveau professionnel, sur la base de ta thèse, de partir sur ce type de design un petit peu fonctionnel pour créer de la prise de conscience et sensibiliser?
Oui, alors il y a cette possibilité-là. Là, en ce moment, je travaille un peu sur cette thématique-là, alors pas forcément avec la fiction, mais sur comment essayer d'engager les gens, les individus vers des pratiques plus vertueuses vis-à-vis de l'environnement. Aujourd'hui, en ce moment, je travaille dans une start-up qui s'appelle Nu et qui conçoit des frigos connectés pour développer les restaurations zéro déchet en entreprise. Et donc, l'objectif de cette start-up, c'est vraiment de mettre en place des habitudes zéro déchet au moment de la pause déjeuner dans les entreprises pour les salariés. Et donc, ça se fait à travers un frigo qui permet à des traiteurs de mettre à disposition des plats frais et sains dans des contenants réutilisables que les utilisateurs, du coup, peuvent ramener au niveau du frigo lorsqu'ils ont terminé leur repas. Donc, encore une fois, là, c'est moins par le biais de la fiction, c'est vraiment plus par le biais du design produit. Mais l'idée, c'est d'engager les individus à adopter des gestes plus vertueux. Et donc là, c'est ce que je fais en ce moment. Mais par la suite, comme tu disais, il y a aussi d'autres sujets que j'ai envie de creuser, celui de la fiction, celui des imaginaires, et peut-être aller plus loin que juste essayer d'accompagner le changement et de favoriser le changement, mais peut-être plus complètement essayer de créer de nouvelles expériences de vie, alors qui aujourd'hui ne sont pas forcément concevables, mais d'essayer de voir de nouvelles manières d'habiter le monde. Parce que dans la partie accompagner le changement, je trouve que c'est quelque chose qui est nécessaire et qui motive aussi beaucoup. Mais on reste encore dans la partie, je trouve, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, tu sais, atténuation, dans la partie transition écologique, on parle souvent atténuation versus adaptation. Et dans l'accompagnement au changement, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la partie atténuation. On considère que le changement est encore élastique et que si on arrive à modeler un peu la manière dont on vit, si on arrive à changer un peu nos habitudes, on va plus tard pouvoir continuer à vivre un peu de la même manière, mais avec juste quelques différences, quelques adaptations. Alors que quand on parle vraiment de la partie adaptation, en fait, on prend en compte le fait que demain, et même en ce moment, en fait, on voit déjà les changements qui ont lieu avec le changement climatique, avec l'érosion de la biodiversité. On va avoir besoin d'avoir des manières de vivre complètement différentes. Par exemple, on ne va plus pouvoir se déplacer de la même manière. Donc, peut-être que de nouvelles expériences de vie, ça serait de travailler sur la démobilité, essayer de faire en sorte... Enfin, essayer de réfléchir à comment est-ce que demain, on vivra en se déplaçant uniquement pour le strict minimum, par exemple. Donc, ce genre de thématique qui, du coup, est plus en lien avec une transformation vraiment plus plastique et non pas élastique de notre environnement.
D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est à travers le design. Toi, tu as vraiment envie d'œuvrer pour la conception du monde de demain ou du monde d'après, comme on t'en parlait, plutôt que sur uniquement de la sensibilisation.
Exactement.
Et alors, autre question, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de design, alors c'est peut-être juste moi, hein, mais ce qui fait tilt dans ma tête tout de suite, c'est éco-conception. On va penser donc à tous ces produits qui sont éco-conçus pour être durables, etc. En fait, ça, c'est quelque chose de très limité par rapport à tout ce dont tu nous parles.
Oui, exactement. Moi, je suis passée par cette étape-là aussi parce que quand j'ai commencé à me poser des questions sur comment intégrer l'écologie dans ma pratique d'innovation et du design, j'ai tout de suite pensé à l'éco-conception, qui est quelque chose de très intéressant parce qu'on vient se poser la question du cycle de vie du produit, comment essayer de faire en sorte qu'il ait le minimum d'impact. Et aujourd'hui, en fait, je pense que tous les produits devraient être éco-conçus. Il ne devrait pas y avoir de produits qui se transforment en déchets en fin de vie. Tout devrait être éco-conçu. Mais moi, ça m'intéresse un peu moins de travailler sur ces thématiques-là parce que justement, j'ai l'impression que c'est l'étape avant. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais comme tu le dis, c'est l'étape zéro, c'est de commencer à éco-concevoir tous nos produits. Et puis l'étape suivante, c'est peut-être commencer à arrêter d'utiliser la majorité des produits pour n'utiliser que le strict minimum. Et moi, je suis plutôt sur la deuxième étape, essayer de commencer à s'habituer à vivre avec moins de choses, avec moins d'objets, moins de consommation, moins d'énergie, etc.
Et ça, tu crois que c'est audible pour les gens que... Comment, c'est quoi le ressenti des personnes quand tu leur en parles?
Je pense que c'est encore un peu trop lointain pour la plupart des personnes. Même moi, quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis dit que ça allait pas être simple. Mais je peux te donner l'exemple de ce que je fais du coup au quotidien et qui, je pense, peut apporter beaucoup plus de bénéfices. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apporte beaucoup plus de bénéfices qu'une manière de vivre qui est plus dans la consommation. Parce que je me suis rendu compte, du coup, au cours de cette période de transition, que de cette prise de conscience, que j'avais vraiment deux piliers, deux principes que j'avais hérités, je pense, de mon éducation, de la manière du lieu d'où je viens, de la manière dont j'ai grandi. Le premier, c'est l'empathie envers la nature, le vivant et la vie en général, qui fait que aujourd'hui, c'est ça qui me donne envie d'agir pour l'environnement et c'est ça qui me donne envie d'avoir un mode de vie qui soit plus en phase avec la nature. Et c'est aussi ce qui va me donner une posture plus ouverte, optimiste au quotidien. Et le deuxième principe, c'est le principe de faire des efforts. J'avais écouté un thinkerview d'Alain Damasio qui expliquait qu'aujourd'hui, on vivait dans une sorte de techno-cocon où avec la technologie, en fait, la plupart de nos actions étaient produites par des éléments extérieurs technologiques donc qui nous apportaient du confort, mais qui faisaient qu'on faisait de moins en moins de choses, à la fois au niveau intellectuel et à la fois au niveau physique. Par exemple, je prends l'exemple de l'ascenseur qui... moi, j'habite au 9e étage et typiquement, je refuse de prendre l'ascenseur parce que je me dis toujours, non, mais mes jambes, elles ont la force de monter jusqu'en haut, j'ai cette capacité-là, j'ai cette puissance-là, donc je n'ai pas besoin de cette technologie-là pour me hisser au 9e étage. Alors, c'est un petit exemple, mais qui est aussi valable dans différents secteurs de notre quotidien. Et en fait, donc, quand je dis faire des efforts, c'est le fait de se dire que je suis capable de faire ça et que je n'ai pas besoin d'être assistée par d'autres technologies ou d'autres outils. Et je pense que ça, du coup, au quotidien, ça me motive pour commencer à rentrer dans un mode un peu de résilience où j'apprends justement à vivre avec moins de choses. Et en fait, ça me procure beaucoup de plaisir parce que, par exemple, je vais apprendre à faire des choses de mes mains. Je vais apprendre à réparer moi-même mon vélo. Je vais apprendre à faire du jardinage. Je vais essayer d'apprendre des choses sur les plantes comestibles, les plantes médicinales, par exemple. Et le fait d'apprendre ça, ça me procure beaucoup plus de plaisir, même si ça demande un effort plus important au début que juste un loisir du style regarder une vidéo sur Internet. C'est un plaisir beaucoup plus long. C'est comme quand on apprend à faire de la musique. L'effort au début, il est vraiment important, mais derrière, le plaisir qui est procuré est beaucoup plus intense, je trouve.
Comment est-ce que tu en es venu à finalement prendre conscience du plaisir que tu tirais de ces efforts et d'agir de la sorte? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu avec la prise de conscience écologique? Est-ce que tu t'es dit, ouais, il faut que je me mette dans cette dynamique-là? Ou c'est finalement... Enfin, comment est-ce que c'est apparu? Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut paraître, mais très, très lointain et bizarre pour beaucoup de personnes.
Mais je pense que c'est venu un peu au fur et à mesure parce que quand on commence à prendre conscience des problèmes écologiques, je ne sais pas par quelles étapes t'es passé toi, mais moi j'ai commencé par différentes petites actions au quotidien. Par exemple, essayer de produire moins de déchets. Et quand tu essayes de produire moins de déchets, tu commences à te poser plein de questions sur le sens, l'utilité des objets, par exemple. Et tu commences aussi à faire un peu plus d'efforts pour essayer de trouver les magasins où il y a du vrac, prendre tes contenants avec toi, les transporter, les porter, etc. Donc ça demande un peu plus d'efforts, mais derrière, t'as beaucoup plus... Enfin, en tout cas, moi, j'avais beaucoup plus de satisfaction à me dire j'ai réussi à me débrouiller toute seule et à faire ça sans avoir besoin de l'aide d'autres personnes ou d'autres outils. Et du coup, petit à petit, je pense que c'est vraiment venu petit à petit dans le quotidien à force de petites actions comme ça. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me procurait plus de plaisir et qui me rendait finalement plus heureuse. Et après, ça va avec aussi, je pense, ma manière d'être de manière générale. Je suis assez manuelle, j'aime creuser les choses, creuser des sujets... à fond pour essayer de tout comprendre. Quand j'essaye d'apprendre des nouvelles choses, j'essaye de le faire de manière approfondie. Donc, je pense que ça va aussi avec ma personnalité, mais j'ai l'impression que dès qu'on commence à faire quelques actions dans ce sens, petit à petit, on se rend compte que c'est super bénéfique.
C'est un peu comme la première fois que tu vas courir, tu dis « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est pénible, qu'est-ce que j'ai mal ?» Et puis finalement, au bout de la troisième, quatrième, tu fais « Ah ouais, ah, quelle prise de plaisir !»
C'est exactement ça, ouais.
Et plus sur le côté professionnel, ça te fait pas peur, toi, de t'engager dans cette voie ? Je veux dire, tu as quand même un gros, gros bagage pédagogique, on va dire, avec tes diplômes. Tu pourrais gagner vraisemblablement pas mal d'argent avec des jobs bien payés, etc. Et là, tu t'engages, j'ai envie de dire, sur une pente qui est beaucoup plus risquée, quelque part, un peu moins certaine. Comment tu l'envisages, ça ?
En fait, j'envisage pas les choses autrement que comme ça, parce que je me rends compte qu'après avoir, comme je le disais, saisi l'urgence et l'importance du problème écologique, que ce soit le changement climatique ou l'érosion de la biodiversité, j'ai réalisé que je ne pourrais pas continuer à avoir un travail qui n'était pas cohérent avec mes convictions personnelles. Et du coup, là, ce que je recherche en ce moment, c'est vraiment essayer d'aligner au maximum mes aspirations professionnelles et mes convictions presque militantes. Et du coup, je pense que la quête de ce projet-là, c'est quelque chose qui m'enthousiasme beaucoup. Le projet que je fais en ce moment dans la start-up Nu, mon contrat se termine en fin décembre. Je ne sais pas encore ce que je vais faire derrière. Tout le monde me dit mais t'es folle, il y a la crise du Covid, tu vas jamais trouver de travail. Et moi, à l'inverse, je suis super contente parce que c'est l'occasion justement d'aller explorer plein de pistes, plein de questions que je me pose, plein de sujets, comme on en parlait tout à l'heure, creuser la question des imaginaires, des nouveaux modes de vie. Par exemple, cet été, j'ai commencé à contacter différentes associations. Je me suis engagée dans la fresque du climat, dans une autre association qui s'appelle l'Archipel des Alizés. Et puis, aussi, j'ai été voir des personnes qui vivaient autrement pour essayer de commencer à comprendre, un peu faire une sorte d'immersion, comme on fait en design en début d'un projet pour voir s'immerger dans le sujet, pour essayer de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui peut nous inspirer. Donc je suis allée voir par exemple un permaculteur et un maraîcher bio qui s'était reconverti pour essayer de voir quel mode de vie ils avaient, est-ce que c'était quelque chose qui pourrait me convenir ou pas. Et du coup, c'est en faisant toutes ces actions-là, en étant ouverte à plein de possibilités, en me rendant disponible pour plein d'opportunités, que je me dis que j'ai pas peur finalement de ce qui va se passer derrière, parce que je me dis que je vais avoir l'occasion déjà d'apprendre plein de choses et de rencontrer plein de gens super intéressants, et surtout de trouver de quoi alimenter et de quoi venir nourrir mon projet personnel à moi en lien avec le design et l'écologie.
Et concrètement, ça, c'est tu vas vivre comment ? Tu te dis, enfin, comment tu vas faire pour partir en voyage ? Enfin, même si c'est pas forcément des préoccupations qui t'animent, et là je pousse un petit peu loin, mais parce que ce sont des questions que les gens se posent en règle générale. Est-ce que finalement c'est un renoncement ? Est-ce que c'est tu dis ben non, ben, tu, je vivrai avec moi, c'est pas grave ?
Je me dis que je vivrai avec moi, c'est pas grave, ça c'est pas gênant. Et puis après, niveau financier, niveau accompagnement, j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, etc. Donc sur ce point-là, je m'inquiète pas trop. Et puis je sais que si je trouve pas immédiatement un travail rémunéré, je le trouverai dans un petit moment, et ça m'inquiète pas plus que ça.
Ok, t'es pas angoissée par rapport au futur ?
Non, pas vraiment. Si, parfois, bien sûr, je suis angoissée, mais plus par rapport aux questions écologiques. Mais ça, c'est comme, je pense, beaucoup des personnes qui ont pris conscience de ce problème.
Oui, effectivement, l'éco-anxiété est un gros sujet aussi aujourd'hui. Et je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux réactions de tes amis et de tes proches. Donc, quand tu leur expliques que tu vas te lancer là-dedans, que tu vas faire ça, qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors, j'ai la chance d'être en colocation avec deux de mes meilleurs amis qui ont fait la même formation que moi et qui, du coup, sont aussi deux personnes qui se posent beaucoup, beaucoup de questions sur le sens de leur travail, le sens de leur vie, etc. Et qui ne font pas que se poser des questions, mais qui aussi agissent pour trouver des réponses. Et donc, tous les trois ensemble, on a souvent des discussions le soir sur, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on change ça, etc. On a fait quelques projets ensemble aussi, et c'est très encourageant, je pense, d'être avec des personnes qui comprennent les questions que je me pose et qui se posent aussi des questions similaires, même si eux, ce n'est pas forcément sur des questions d'écologie, par exemple. Mais souvent, ces deux amis vont venir m'aider en me challengeant, en me reposant des questions, en me donnant peut-être des outils, des méthodes, des clés pour essayer d'avancer dans ma réflexion. Et ça, c'est super, c'est vraiment super riche, et je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec ces deux personnes qui me comprennent. Sur la partie aussi écologie, quand j'ai commencé à prendre conscience des problématiques environnementales, j'ai senti un peu un décalage avec le reste de mon entourage, par exemple ma famille qui n'est pas forcément encore préoccupée par ces questions-là et qui, du coup, parfois s'inquiétait de me voir perturbée ou plutôt hyper... Enfin, tout le temps en train de parler d'écologie, de problématiques environnementales. Et je pense que ça a peut-être pu les inquiéter ou en tout cas, ils ne comprenaient pas vraiment. Mais là aussi, j'ai réussi à m'entourer de personnes qui avaient déjà fait cette prise de conscience. Et je pense que c'est vraiment en parlant avec ces personnes-là que j'ai pu avancer aussi sur ces questions-là et justement sortir, comme tu disais tout à l'heure, de cet état de solastalgie ou d'éco-anxiété. Ça, le fait d'en parler avec d'autres personnes qui agissent et qui sont passées par ces stades-là, ça permet aussi de dépasser les étapes un peu anxiogènes et de trouver des personnes avec qui aller de l'avant aussi, monter des projets. Je pense qu'en étant dans l'action, finalement, on s'inquiète beaucoup moins.
Alors c'est bien, tu me permets de faire une transition par rapport à justement l'engagement et comment passer à l'acte. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, de manière assez fréquente, de par le podcast et les échanges que je peux avoir avec des nouvelles personnes que je rencontre dans des soirées et autres, quand il était encore possible de faire des soirées, on me dit toujours, ouais, moi, ça me parle beaucoup, c'est vrai que c'est important, mais bon, je ne sais pas trop quoi faire, comment où aller, et puis par où commencer, et puis c'est quand même un peu angoissant de passer à l'acte. Donc toi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire, quel conseil tu pourrais donner à ces personnes-là qui ont quand même un peu conscience du problème, même s'ils n'ont pas conscience de l'urgence, on va dire, pour aller de l'avant et puis faire partie du mouvement.
C'est une bonne question, parce que je pense que suivant les personnalités des gens, il n'y aura pas une réponse unique. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a permis d'avancer, c'est de mettre dans l'action. Par exemple, j'ai commencé à participer à la Fresque du Climat, que tu connais, je pense, qui est une association qui a pour but de sensibiliser aux causes du changement climatique, aux causes et conséquences du changement climatique à l'aide d'un jeu de cartes collaboratif. Et donc, je me suis formée à l'animation de cette fresque. Même si au début, tu vois, je me disais c'est pas forcément trop en lien avec le design ou avec les préoccupations ou les centres d'intérêt que j'avais, qui sont plutôt sur la créativité, l'imagination, la création de nouveaux usages, etc. C'était pas forcément en lien avec ça, mais c'était un petit pas, une manière d'agir qui en fait me mettait dans une dynamique d'action, et donc ça a commencé à de plus en plus me donner envie d'agir en fait en faisant premier geste dans ce sens là ça met un peu le pied à l'étrier et ça donne ensuite une impulsion pour continuer. Après, en parlant, je me rends compte que peut-être que c'était un exemple un peu trop compliqué parce que se mettre du jour au lendemain à animer des fresques du climat, c'est pas forcément... Enfin, il faut déjà être un peu motivé. Mais je pense que commencer par des petites actions en essayant de trouver... en fait, tester plusieurs choses. Tester les associations, tester juste les débats avec des amis, tester par exemple aussi la désobéissance civile pour essayer de trouver le mode d'action qui nous convient le mieux. Et petit à petit, plus on commence à s'impliquer dedans, plus on se renseigne, plus on se rend compte aussi de l'urgence et plus on a envie d'agir, je pense.
Donc commencer par un petit pas finalement qui est celui qui nous conviendrait le mieux, mais finalement en fait c'est essayer de sortir de chez soi, rencontrer des gens, discuter de tout ça. Et c'est ça qui pour toi, permet de commencer à s'animer.
Et puis tester des choses, même si on sait que peut-être ça ne va pas nous correspondre tout de suite. Essayer de tester plusieurs modes d'action, que ce soit des actions individuelles, le zéro déchet, la désobéissance civile. Et en testant, en fait, je pense qu'ensuite, on peut arriver à trouver... le mode d'action qui nous convient le mieux. Mais c'est une question qui est compliquée et que je continue encore à me poser aujourd'hui. Hein. Mais le fait de s'engager sur plusieurs types d'initiatives, ça permet aussi de tester pour ensuite trouver celle qui nous convient le mieux.
Et alors, si aujourd'hui tu pouvais sauter dans la DeLorean et remonter dans le temps, alors quelques années en arrière pour le coup, à l'époque où tu étais dans tes études et que tu disais finalement le secteur des cosmétiques, c'est par là que j'ai envie de prendre le bout. Qu'est-ce que tu aurais envie de te dire ? Est-ce que tu aurais envie de te faire passer un message en particulier ?
Avant de faire mon master, moi j'étais un peu perdue sur ce que je voulais faire de ma vie parce que j'avais cette formation d'ingénieur. Mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Je ne me sentais pas complètement en phase avec ce que j'aimais parce que j'avais une partie aussi de moi qui était plus créative, artistique, que je n'arrivais pas à concilier avec ça. Et donc, tous les métiers que je voyais à la suite de l'école d'ingénieur ne me faisaient pas plus envie que ça. Et du coup, je pense que si j'avais un conseil pour la personne que j'étais à ce moment-là, ce serait d'oser être créatif, de ne pas avoir peur d'inventer de nouvelles choses, de ne pas avoir peur surtout de faire confiance à toutes les parties de sa personnalité, même si d'apparence, au vu d'extérieur, pour les autres, elles ne sont pas forcément compatibles, comme ingénieur et artiste, par exemple. Et pourtant, c'est des choses qui font partie de soi à part entière, et donc oser les exprimer, et oser commencer à chercher des moyens d'allier toutes ces parties de sa personnalité pour trouver de la cohérence.
Et comment est-ce que tu fais pour faire ça ? Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est essayer d'abord mieux se connaître, parce que c'est enfin, en se connaissant mieux finalement qu'on trouve un petit peu sa voix, entre guillemets, ou ses voix. Et comment est-ce que toi, tu as utilisé une méthode en particulier pour ça ? Tu t'es fait aider de quelqu'un ?
Pas vraiment. Moi, en tout cas, à ce moment-là, j'avais pas vraiment de méthode. J'ai plutôt suivi mon instinct. Je savais même avant d'aller en école d'ingénieur qu'il fallait que je fasse quelque chose d'artistique après. Et en faisant ce master en design, je pense que je savais aussi que derrière, il faudrait que je le relie avec des thématiques écologiques, parce que c'est finalement un peu les trois parties de ma personnalité. Donc à ce moment-là, je n'avais pas vraiment de méthode. Par contre, aujourd'hui, maintenant que j'ai un peu plus pris de recul sur ce que je veux faire et sur toutes ces questions-là, j'ai passé pas mal de temps ces derniers temps à essayer de remettre à plat toutes ces questions-là que j'avais autour du design. Et donc, j'essaie d'utiliser... c'est pas vraiment une méthode, mais j'ai essayé de... En fait, je prends des notes dans un carnet de toutes les choses qui m'inspirent, tous les podcasts que j'entends qui me donnent des idées. Et ces derniers temps, j'ai relu ces carnets-là que je tenais depuis 2 ans. Et j'ai tout remis à plat sur des post-it. J'ai tout collé au mur en essayant de faire des catégories, en essayant de voir qu'est-ce qui était plus du côté de ma personnalité propre, qu'est-ce qui était plus du côté de mes centres d'intérêt ou les sujets que j'avais envie de creuser, mes aspirations, etc. Et en faisant cette énorme cartographie un peu de tout ce que j'avais dans la tête, ça m'a permis de remettre à plat vraiment qu'est-ce qui me constituait, qui j'étais et ce vers quoi je voulais aller. Donc ça, c'est pas vraiment une méthode, donc je sais pas si je pourrais la conseiller. Mais en tout cas, ça m'a vraiment aidé à remettre à plat. Donc peut-être pour faire plus simple, l'idée, ça serait d'essayer de dessiner ou de matérialiser, alors soit avec des post-it, soit avec des dessins, soit avec des croquis, les choses qui font partie de notre personnalité, les choses vers lesquelles on va aller, et essayer de faire comme ça un immense plan ou une cartographie de ce qu'on a envie de faire. Je pense que ça peut aider. Je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Essayer de les sortir de sa tête pour les mettre à plat devant soi sous forme matérielle, de dessin, de mots, etc.
Delphine, on arrive à la fin de l'émission et je voulais savoir si, en plus de tout ce qu'on a pu échanger, tu aurais des conseils à faire passer, des recommandations particulières?
Peut-être que je pourrais donner un conseil de lecture. Pour ceux qui ne connaissent pas le design et qui souhaitent s'y intéresser, je recommande vraiment un petit livre qui a été écrit par Stéphane Vial. C'est dans la collection des Que sais-je sur le design. C'est vraiment un des livres qui m'a donné beaucoup d'énergie et qui a un peu forgé la vision que j'ai aujourd'hui sur le design. Et c'est un moyen de comprendre quel est le potentiel du design dans la construction de notre environnement, de nos mondes. Et puis, je voudrais aussi partager une personnalité que j'ai découvert récemment qui s'appelle Rob Hopkins. Alors, j'ai pas de podcast ou d'interview en particulier à donner, mais je crois qu'il y en a plusieurs sur France Culture, par exemple, qui sont super intéressantes parce que cette personne, elle parle un peu de la panne des imaginaires et comment est-ce que l'imagination peut venir aider à résoudre les problèmes écologiques.
Merci beaucoup Delphine pour ton témoignage et pour toutes ces idées très inspirantes. Je te souhaite bonne chance dans la suite de ton parcours et je te dis à très bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez !